ses pieds esquissèrent quelques faibles mouvements. Si seulement elle parvenait à retrouver l'usage de son corps, elle pourrait fuir. Il le fallait, sinon cette marée qui montait en elle l'emporterait dans le silence, contaminant son âme à tout jamais. Mais ses membres refusaient de lui obéir. Les forces colossales de l'univers impérial pouvaient se plier au moindre de ses caprices, mais son propre corps était sourd à ses ordres. Elle perçut un rire profond, puis une voix de basse grondante.
« D'un certain point de vue, mon enfant, chaque incident de la création représente une catastrophe. »
À nouveau, ce rire qui semblait se moquer par avance du ton solennel de la voix.
« Ma chère enfant, je t'aiderai, mais tu dois m'aider en retour. »
Claquant des dents faiblement par-dessus la clameur qui s'enflait, Alia voulut demander « Qui ? Qui ?» Un visage se dessina à la surface de sa conscience. Un visage souriant et tellement à dit peu qu'il aurait pu être celui d'un bébé, n'eût été la vivacité du regard. Alia tenta de le rejeter, mais elle ne réussit qu'à découvrir le corps auquel appartenait ce visage porcin. Un corps énorme, bouffi, enveloppé dans une robe qui révélait, par quelques subtils renflements, que cet amas de graisse avait exigé le soutien de suspendeurs gravifiques.
« Tu vois, » reprit la voix de basse, « je suis ton grand-père maternel. Tu me connais. J'étais le baron Vladimir Harkonnen. »
« Vous êtes mort ?»«
Mais bien sûr, ma chère. La plupart de ceux qui sont là en toi sont morts. Mais aucun ne désire vraiment t'aider. Ils ne te comprennent pas. »«
Allez-vous-en, » supplia-t-elle. « Je vous en prie. »«
Mais tu as besoin d'aide, ma petite fille, » protesta le baron.
« Il semble si exceptionnel, » pensa-t-elle, contemplant l'image du baron derrière ses paupières closes.
« Moi, je veux t'aider, » reprit-il. « Ceux qui sont ici ne se battent que pour s'emparer de ta conscience. Chacun d'eux essaiera de te dominer totalement, mais moi, je ne te demande qu'un petit coin. »
Une fois encore, la clameur des voix s'enfla. Une fois encore, la marée menaça de submerger Alia, et elle entendit l'appel strident de sa mère. « Elle n'est pas morte, » se dit-elle.
« Silence !» fit le baron.
La volonté d'Alia vint renforcer cet ordre, se diffusant à toute sa conscience. Le silence revint alors comme une vague d'eau fraîche. Les martèlements de son cœur, peu à peu, retrouvèrent un rythme normal, redevinrent des battements. Doucement, la voix du baron demanda
« Tu vois ? Ensemble. » « Nous sommes invincibles. Tu m'aideras et je t'aiderai. »«
Que voulez-vous ?» Une expression songeuse apparut sur la face énorme du baron.
« Ah, ma petite fille chérie, je ne souhaite que quelques plaisirs très simples. Je veux seulement être en contact avec tes sens, parfois, pour un bref instant. Nul n'aura jamais à le savoir. Tu me donneras un tout petit peu de ta vie. » Par exemple, lorsque tu seras entre les bras de ton amant. N'est-ce pas là un prix bien modeste ?
Oui, admit-elle.
Bien, bien, gloussa le baron. En échange, petite fille chérie, je puis te rendre service de bien des façons. Je peux t'offrir mes conseils, t'apporter l'aide de mon expérience. Tu seras invincible, tant extérieurement qu'intérieurement. Tu balayeras toute opposition. L'histoire oubliera ton frère pour n'adorer que ton nom. L'avenir t'appartiendra.
Vous empêcherez les autres de me dominer ?
Ils ne peuvent pas nous résister. Isolés, nous risquons de perdre, mais ensemble, nous tenons le pouvoir. Je puis te le prouver, écoute.
Et le baron se tut. Il effaça son image, retira sa présence. Et nulle mémoire, nul visage. Nulle voix étrangère ne se manifesta. Alia eut un soupir tremblant. Et ce soupir seul ouvrit la voie à une pensée qui pénétra sa conscience comme si elle en était une émanation. Derrière, pourtant, elle devina des voix qui se taisaient. Le vieux baron était mauvais. Il a tué ton père. Il a voulu vous tuer, toi et Paul. Il a essayé et a échoué. La voix du baron se fit entendre sans que son visage apparût.
« Bien sûr que je t'aurais tué. N'étais-tu pas un obstacle sur mon chemin? Mais il n'y a plus de conflit, c'est toi qui as gagné, mon enfant. Tu es la vérité nouvelle. »
Elle acquiesça. Sa joue effleura la surface rude du banc. Les paroles du baron étaient sensées. Un précepte Bene Gesserit venait à l'appui de ses arguments. Le but d'un conflit est de changer la nature de la vérité. Oui, songea-t-elle. C'était ainsi que les sœurs verraient cela.
Exactement, exulta le baron. Et je suis mort tandis que tu es vivante. Je n'ai qu'une très fragile existence. Je ne suis qu'un support mémoire réfugié en toi. Tu m'as en ton pouvoir, entièrement, et je te demande si peu contre la valeur des avis que je puis te donner.
Que me conseillez-vous donc de faire maintenant? Demanda-t-elle.
Tu t'inquiètes à propos du jugement que tu as rendu la nuit dernière. Tu te demandes si les propos de Paimon t'ont été rapportés sincèrement. Peut-être Javid a-t-il vu en Paimon une menace dirigée contre sa position. N'est-ce pas là le doute qui t'est venu?
Oui.
Et ce doute se fonde sur une observation minutieuse, n'est-ce pas? Javid fait montre d'une attitude de plus en plus intime envers ta personne. Duncan lui-même n'a pas été sans remarquer cela, non?
Vous le savez.
Très bien. En ce cas, fais de Javid ton amant et...
Non!
Tu te soucies de Duncan? Mais ton époux est un mystique mentat. Les actes de la chair ne peuvent le toucher ni le blesser. N'as-tu jamais senti à quel point il est distant de toi?
Mais il est...
La part mentat de Duncan comprendrait cela. Dût-il même connaître un jour le procédé que tu auras employé pour détruire Javid?
Le détruire?
Certainement. On peut utiliser des outils dangereux, mais il faut les rejeter dès qu'ils deviennent trop dangereux.
Mais alors, pourquoi devrais-je... Je veux dire...
Ah, charmante ignorante, à cause de la valeur contenue dans la leçon.
Je ne comprends pas.
Les valeurs, ma chère petite fille, ne sont acceptées qu'à raison de leur succès. L'obéissance de Javid doit être inconditionnelle, son acceptation de ton autorité absolue. Et son...
La morale de cette leçon échappe à ma...
Ne sois pas stupide, petite fille. La morale doit toujours être fondée sur l'efficacité pratique. Rends à César et toutes ses absurdités. Une victoire est sans objet si elle ne reflète pas tes désirs les plus profonds. N'est-il pas vrai que tu as éprouvé de l'admiration pour la virilité de Javid?
Alia hésita. Cet aveu lui était haïssable, mais elle y était contrainte, nue devant le voyeur qui était en elle. Oui.
Bien.
Et ce simple mot éclatait de jovialité dans son esprit.
Maintenant, nous commençons à nous comprendre. Lorsqu'il sera à ta merci, dans ton lit, quand il sera convaincu que tu es son bien, pose-lui la question à propos de Paimon. Fais-le en plaisantant, comme si tu désirais en rire avec lui. Et quand il aura admis sa traîtrise, tu lui planteras un cris entre les côtes. Ah, un flot de sang apporterait tant à ta satis...
Non, souffla Alia, l'horreur desséchant tout à coup sa bouche. Non, non.
Alors je le ferai pour toi s'il le faut. Tu l'admets. Si tu rassembles ces conditions, je suis prêt à assumer temporairement ton rôle.
Non.
Ta peur est tellement transparente, ma chère petite fille. Ma domination de tes sens ne saurait être que temporaire. Il en est d'autres, par ailleurs, qui pourraient prendre ta place avec une perfection telle que... Mais tu sais cela. Avec moi, bah, les gens décèleraient aussitôt ma présence. Tu connais la loi des Fremen en ce qui concerne les possédés. Ils te supprimeraient sur l'heure. Oui, même toi. Et tu sais bien que je ne souhaite nullement cela. Je supprimerai Javid pour toi, et quand ce sera fait, je me retirerai. Tu n'auras qu'à...
Est-ce de bons conseils?
Tu te débarrasseras d'un outil dangereux. Et, mon enfant, tu scelleras en même temps nos relations de travail. Des relations qui ne peuvent que t'enseigner de bonnes leçons en vue des jugements futurs que tu serais conduite à...
M'enseigner des leçons.
Naturellement.
Alia plaça les mains sur ses paupières, essayant désespérément de réfléchir, sachant que la moindre de ses pensées pouvait être lue par celui qui était en elle, que d'autres pensées pouvaient émaner de cet esprit étranger, qu'elle risquait de les accepter comme siennes.
« Tu te tourmentes sans raison, » ronronna le baron. « Ce Paimon, d'ailleurs, était... »«
Je me suis trompé. J'étais las, et j'ai agi trop vite. J'aurais dû chercher à appuyer... »«
Tu as agi sagement. Tes jugements ne peuvent être fondés sur des abstractions aussi stupides que cette notion d'égalité chère aux Atreides. C'est cela qui t'a ôté le sommeil, et non la mort de Paimon. » Ta décision était bonne, Paimon n'était qu'un outil dangereux. Tu as voulu maintenir l'ordre dans ta société. Voilà une bonne justification pour un jugement qui n'a rien à voir avec cette absurde histoire de justice. La justice dans l'égalité n'existe nulle part. Tenter de parvenir à ce faux équilibre, c'est menacer une société.
Alia ressentit du plaisir à se plaidoyer pour la sentence qu'elle avait rendue contre Paimon, mais le concept amoral que recouvrait l'argument du baron la choquait. La justice dans l'égalité était pour les Atreides, commença-t-elle. Était... Elle baissa les mains, mais ses paupières demeuraient closes.
Tous les juges de ton clergé devraient être mis en garde contre cette erreur, dit le baron. Les décisions doivent être pesées selon le pouvoir qu'elles ont de maintenir une société ordonnée. Bien des civilisations du passé ont sombré sur les écueils de la justice et de l'égalité. Une telle sottise détruit les hiérarchies naturelles qui sont plus importantes. Un individu n'a de sens que par les relations qu'il entretient avec l'ensemble de la société. Si cette société n'est pas logiquement organisée en strates, nul ne pourra y trouver sa place, de la plus élevée à la plus humble. Allons, allons, petite fille, tu dois être la figure de proue de ton peuple. Ton devoir est de maintenir l'ordre.
Tout ce que Paul a fait était...
Ton frère est mort. Il a échoué.
Tout comme vous.
C'est vrai. Mais dans mon cas, ce fut un accident échappant à mes desseins. Allons, il faut nous occuper de ce Djavid ainsi que je te l'ai dit.
Cette pensée fit refluer un peu de chaleur dans le corps d'Alia. « Je dois réfléchir, » dit-elle rapidement. Et elle songea, pour cela, il suffit de remettre Djavid à sa place. Inutile de le tuer. Et cet idiot pourrait aussi bien se trahir dans mon lit. « À qui parlez-vous, madame ?» Un instant troublé, Alia crut à une nouvelle intrusion d'une des voix de la multitude intérieure. Mais celle-ci lui était familière. Elle ouvrit les yeux. Ziarenka Valefort, chef des Amazones de Sagard, se tenait auprès du banc, une expression inquiète sur le visage. « Je parlais à mes voix intérieures, » dit Alia en se redressant. Elle se sentait mieux, soudain, soulagée par le silence désormais revenu en elle. « Vos voix intérieures, madame ?» répéta Ziarenka. Il y eut une lueur dans ses yeux bleus de Fremen. Chacun savait qu'Alia la Sainte disposait de ressources inaccessibles à tout autre. « Conduis Djavid dans mes appartements, » dit Alia. « Je dois discuter avec lui d'un problème sérieux. »« Dans vos appartements, madame ?»« Oui, dans ma chambre. »« Il en sera fait selon vos ordres, madame. » Ziarenka s'apprêta à se retirer. « Un instant, » ajouta Alia. « Maître Idaho est-il parti déjà pour le siège Taber ?»« Oui, madame. Il a pris le départ avant l'aube selon vos instructions. »« Désirez-vous que l'on envoie... » Non, je me chargerai de cela moi-même. Et, Zia, personne ne doit savoir que j'ai convoqué Djavid. Charge-toi de cela, c'est une affaire importante. Ziarenka porta la main au kris suspendu à sa poitrine. Madame, y a-t-il une menace contre...
Oui, il y a une menace, et il se pourrait que Djavid en soit la source.
Madame, peut-être ne devrais-je pas... Zia, me crois-tu incapable de me charger de lui ?
Un sourire féroce se dessina sur les lèvres de Ziarenka.
Pardonnez-moi, madame. Je le conduis immédiatement à vos appartements, mais, avec la permission de madame, je monterai la garde devant sa porte.
Toi seule, alors, dit Alia.
Oui, madame. J'y vais de ce pas.
Tandis que Ziarenka s'éloignait, Alia hochait la tête.
Ainsi, ses gardes n'aimaient pas Javid. Un autre mauvais point à son encontre. Mais il gardait encore une certaine valeur, et même une grande valeur. Il était la clé de Djakurutu. Et avec Djakurutu...
Peut-être avez-vous raison, baron, murmura Alia.
Tu vois bien,
exulta la voix au centre de son esprit.
Ah, j'aurai plaisir à te rendre ce service, mon enfant. Et ce n'est qu'un début.